Médias.
Médias. Podcast.
Médias. Podcast.
Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Médias pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Médias, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, eh bien, nous parlerons animation avec Mounia Aram, qui a fait de l'animation une véritable vocation. Sinon, nous parlerons podcast sonore, documentaire avec Yasmine Mahjoubi, une jeune femme pleine de talent qui propose un superbe podcast baptisé Le Soldat Bison, une sorte de dialogue épistolaire avec la mémoire de son papa. Énorme coup de cœur pour cette réalisation unique en son genre. Et pour nous en parler, elle sera avec nous. Sinon, nous parlerons cinéma avec le départ de Souleymane Cissé qui nous a quitté le 20 février dernier, véritable pionnier du cinéma africain, un réalisateur hors pair qui aura laissé derrière lui des classiques du cinéma africain, et on parlera de toute sa carrière et surtout de sa signature cinématographique. Et comme promis, place tout de suite au monde de l'animation avec Mounia Aram qui est avec nous pour nous parler du monde de l'animation et de son essor sur le continent africain, de sa diversité, de sa complexité et de sa richesse, surtout à l'image de notre continent. Il faut savoir que Mounia Aram est une spécialiste de l'animation avec plus de 17 ans d'expérience dans cette industrie, de l'Europe à l'Asie en passant par les États-Unis. Et maintenant l'Afrique, du Bénin en passant par le Nigeria, encore le Maroc. Elle est absolument partout, avec un seul mot en bouche, l'animation, toujours et encore.
La richesse, elle vient surtout du fait que le continent est multiculturel. On a des tas d'histoires, multitudes de cultures, de langues, de populations et des traditions qu'on peut explorer et qu'on peut développer en animation, comme l'a bien fait le Japon, avec notamment les animés japonais. Ils ont exporté leur culture, donc pourquoi pas voir des histoires africaines des différents pays d'Afrique, avec chacun leur authenticité, leurs personnages et leurs lieux qui sont différents.
Et à votre avis, Mounia Aram, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour l'essor d'animés typiquement africains? Est-ce que le public n'est pas encore perméable à ce genre de choses, ou vraiment peut-être que ça vient de nous, peut-être qu'on a du mal à raconter nos histoires encore?
Je crois qu'aujourd'hui, on a franchi une étape depuis quelques années. On voit de plus en plus d'histoires africaines, qu'elles viennent d'Afrique du Sud, du Nigeria ou même du Maroc. Et la difficulté qu'on a sur le continent, c'est qu'on, contrairement à l'Europe, moi je suis basée en France et je suis confrontée à ça, je vois bien qu'on a accès à des financements qu'on n'a pas dans les pays africains. Donc l'animation coûte cher, il faut pouvoir la financer, pour pouvoir la produire. Donc ce qui nous manque, c'est des soutiens de la part des gouvernements pour pouvoir apprécier et soutenir ces initiatives autour de l'animation, parce qu'il y a des histoires qui ne cherchent qu'à se développer et à se produire, mais il faut encore leur donner les moyens. Et il y a aussi la question de la formation qui est toujours latente. La jeunesse est là, mais il faut la former pour qu'elle puisse développer cette technicité que l'on retrouve et qui est vraiment très importante à s'approprier pour pouvoir bien produire des contenus qui parlent à tout le monde.
Et justement, vous êtes dans ce monde depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler, même à petite échelle, d'une industrie, donc du cinéma d'animation en Afrique? Ou encore, est-ce que c'est trop tôt?
On On peut commencer à en parler, effectivement, mais c'est vrai que la différence, c'est qu'on parle d'un continent, on parle de 54 pays, donc de là à parler d'une industrie de l'animation, on a encore un grand chemin à parcourir. C'est vrai qu'il y a des initiatives par territoire, par pays, et il faut encore se donner le temps et les moyens pour qu'elles grandissent et pour qu'on puisse parler à proprement d'industrie.
Et Mounia Aram, en quoi vous expliquez cette effervescence pour le monde de l'animation? Est-ce que la réalité est devenue trop insupportable pour la regarder en face? Pourquoi ce regain d'intérêt un peu partout pour le cinéma d'animation?
C'est vrai que l'animation, c'est un outil tellement beau et tellement intéressant pour transmettre des messages. Donc l'actualité, c'est vrai, est compliquée, mais en même temps, avec l'animation, on peut s'évader et on peut néanmoins transmettre des messages, ça peut être politique aussi, hein, mais on essaie de transmettre des messages de paix, de bonheur aussi, et c'est un divertissement. Donc on a envie de se divertir aujourd'hui et ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, donc les adultes aussi aiment beaucoup l'animation. Moi, j'ai plus le constaté dans ma carrière, j'ai travaillé beaucoup dans l'animation japonaise, c'est là que j'ai démarré, et c'est vrai que les animés sont beaucoup consommés par les adolescents et les adultes. Donc on a envie de s'échapper, on a envie d'échapper s'échapper du quotidien et s'évader et s'identifier à des héros. Et je trouve que c'est beau parce que c'est beaucoup de poésie et beaucoup de messages à fort potentiel qui sont transmis par l'animation.
Merci beaucoup Mounia Aram d'avoir été avec nous, c'est un plaisir.
Merci Amna, toujours un plaisir.
Merci. Et après avoir parlé animation, nous parlons cette fois-ci fiction, cinéma avec Souleymane Cissé, un des plus grands noms du cinéma africain qui nous a quitté le 20 février dernier. Souleymane Cissé nous a quitté donc à l'âge de 84 ans. Il faut savoir que Cissé a acquis une reconnaissance internationale déjà en 87 lorsque son film Hélène, la lumière a remporté le prix du jury du Festival de Cannes, devenant ainsi le premier cinéaste d'Afrique à être récompensé lors de ce prestigieux festival. Sa carrière de pionnier s'est étendue sur plus de 50 ans. Il a reçu d'ailleurs de nombreuses récompenses et en 2023, je le rappelle, Cissé a été honoré par Cannes d'un Carrosse d'or habituellement décerné aux réalisateurs qui ont, je cite, marqué l'histoire du cinéma par leur audace, leur exigence et leur intransigeance dans le monde de la mise en scène.
Bon, moi je crois beaucoup que ça ne sera pas facile pour eux, contrairement à ce qu'on pense, mais il faut qu'ils tiennent le coup, parce que c'est très important, le métier. C'est important parce que l'Afrique ne peut pas se transporter en France, en Europe ou aux États-Unis. L'Afrique se transporte par les images. Et ces images, des millions de personnes peuvent le voir et connaître réellement l'Afrique. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce stade-là, on ne comprendra jamais le continent. Ça, c'est ma vision des choses.
Souleymane Cissé, qui nous a donc quitté le 20 février dernier à l'âge de 84 ans. Cissé a également reçu, je le rappelle, à deux reprises le Grand Prix du Festival panafricain du film, le FESPACO, qui se tient tous les deux ans. Le feu follet de la compassion, comme on l'appelle, les cinéphiles ont loué les œuvres de Cissé pour leur complexité, leur engagement politique, leur profonde humanité. D'ailleurs, son premier long métrage, Den Musso, la jeune fille, tourné en 75 en langue locale, le Bambara, est considéré comme un véritable classique du cinéma africain. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille violée et donc qui est tombée enceinte et qui a été rejetée par sa famille. Le film avait été interdit par les autorités maliennes et Cissé avait été emprisonné pour avoir accepté un financement français. C'est en prison qu'il écrira d'ailleurs le scénario de son deuxième film Bara, Travail. Il a réalisé d'autres films dont Fignier, Le Vent en 81 et Hélène, La Lumière qui a remporté le prix du jury à Cannes en 87. Son dernier film Wati, Le Temps, date de 95. Cissé aura passé une partie de son enfance au Sénégal voisin. Plus tard, il ira à Moscou étudier le cinéma dans une des plus grandes écoles du cinéma au monde. Et il deviendra l'un des cinéastes africains de la première génération. Cissé s'est ensuite fait un peu le champion du soutien de l'investissement du gouvernement dans l'industrie cinématographique. Il aura été le président fondateur du syndicat représentant les entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Il critiquait, je cite, la censure et le mépris et invite inviter les jeunes cinéastes à ne pas se comporter comme des mendiants qui doivent à chaque fois implorer un financement de l'Europe, mais plutôt à rechercher une plus grande indépendance envers les Occidentaux. Quelques heures avant sa mort, il aurait exhorté le gouvernement militaire du Mali à aider l'industrie du pays à rattraper ses rivaux continentaux. Ses derniers mots pour le cinéma auront été « Il ne suffit pas de faire du cinéma, il faut aussi que les œuvres soient visibles, que les autorités nous aident à construire des salles de cinéma. » Après avoir parlé cinéma avec le départ à l'âge de 84 ans de Souleymane Cissé qui nous a quittés, nous parlons tout de suite podcast, réalisation sonore avec la réalisatrice sonore et Yasmine Mehjoubi qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous présenter bien son documentaire podcast baptisé Le Soldat Bison, un podcast intimiste, immersif au nom de la mémoire, la sienne, celle de son père, avec qui elle dialogue et dans lequel elle essaye de trouver un écho à travers justement ce podcast, une introspection sonore rarissime et qui nous a fait vibrer. On écoute tout de suite Yasmine Mehjoubi.
Le son, j'aime beaucoup ce médium. Je trouve que c'est un outil qui est très efficace pour faire transparaître des émotions s'il est bien travaillé, s'il est bien écrit. C'est très malléable et j'aime beaucoup donner l'opportunité aux gens de pouvoir s'imaginer aussi des histoires et de faire travailler principalement un seul des sens. Je sais que c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, mais ça me stimule surtout beaucoup dans mon travail, que ce soit individuellement ou en équipe. C'est le travail avec le son est en fait très gratifiant parce que c'est énormément de travail, c'est beaucoup de temps et ça peut être très fatigant aussi de travailler un seul de ses sens pour réaliser quelque chose. Mais en fait, à la fin, c'est tellement gratifiant et c'est limite une addiction parce que quand tu te poses, quand tu es impliqué en fait, quand tu as une intention claire de l'histoire que tu veux raconter, quand tu vois à la fin que l'histoire s'est vraiment racontée avec le son, c'est une kiffance ultime. C'est un bonheur. Donc oui, peut-être c'est un peu une addiction en fait chez moi.
Une addiction, et moi je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir choisi ce format-là. Et puis on verra un extrait à la fin. Et on a ces mots, donc les mots que tu dis, que l'on dit dans le podcast, qui s'inscrivent sur l'écran. Et parfois on a l'impression qu'ils sont d'une violence. S'il y avait l'image, peut-être qu'il serait moins violent, l'image adoucirait peut-être le propos, mais là, on a l'impression que c'est une mise à nu totale. Et est-ce que c'était voulu justement pour ça, ou quel est ton lien en fait avec l'image et le son? Quelle est la différence que tu as envers l'un et envers l'autre?
Pour ce projet en particulier, il y a une présence imagée, il y a du texte pour concrètement avoir des sous-titres et le rendre plus accessible à un panel plus large de personnes. Il n'y avait pas une volonté immédiate dès l'écriture initiale d'avoir un élément visuel, parce que je trouve vraiment que c'est... Vu que c'est un dialogue entre moi-même et mon papa, sans que j'aie de réponse de son côté, c'est une mise à nu un peu complète personnellement, ce qui était terrifiant. Et avoir cette histoire racontée qu'avec le son faisait complètement du sens. Et vraiment, l'aspect image, l'aspect mot que tu vois sur l'écran, c'est complètement pour l'accessibilité. Par contre, quand j'étais en train de faire les sous-titres avec Mehdi El Kindi, le fondateur des Bonnes Ondes, et le producteur du podcast, et quelqu'un qui m'a complètement, mais tellement aidé pendant ce processus, j'aurais jamais fait ce projet sans lui. On s'est beaucoup amusé avec le placement des textes pour les rendre, pour leur donner du sens en fait, pour que ça soit pas juste des sous-titres en dessous d'une vidéo ou d'un écran noir, quoi. Que les mots suivent le son en stéréo. Des fois, il y a quelque chose qui est en haut, du coup, les mots sont en haut, à droite. Des fois, il y a des trucs sur le côté, à gauche. Et ma voix centrée au milieu, vu que c'est un peu l'échange unilatéral qui porte un peu le récit. C'est un peu moi qui essaye de me rappeler de mon papa en essayant de lui parler et en fouillant dans ses papiers et dans la mémoire des gens que j'aime.
Et voilà, c'est aussi une démarche très, très personnelle hein, d'une jeune femme envers, envers son papa. Ce dialogue, tu dis unilatéral, mais en fin de compte, qui a plusieurs voix, si j'ose dire. Et comment t'es venue l'idée de ce projet comment ça a dû être écrit? Je pense que ça doit être un peu plus compliqué que d'écrire avec des images en tête, parce que c'est terrible, comme tu disais, c'est terrifiant. Il y a aussi cette part intime hein, que l'on met au public. Comment ça s'est passé pour toi, Yasmine?
En fait, c'est né d'un besoin de pouvoir parler de mon papa sans avoir la gorge, une boule entre dans ma gorge. C'est encore une fois, j'ai fait ce podcast grâce à Mehdi El-Kindi. J'étais dans une situation où, après le décès de mon père, c'était très compliqué. Et Mehdi a vu que j'étais pas au maximum et que j'avais du mal à me rappeler de ce que me disait mon papa. Et ça me désolait. Je me suis trouvée trop, j'allais dire un gros mot, je me suis trouvée hyper débile de ne pas l'avoir écouté quand il était encore vivant, et je voulais un peu me rattraper. Et il a vu comment, dans la situation dans laquelle j'étais émotionnellement, psychologiquement, et il m'a dit: Yasmine, si tu veux faire quelque chose sur ça, moi je suis avec toi, fonce, cherche, fouille. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai foncé, j'ai cherché, j'ai fouillé. En fait, c'était très marrant parce que plus je fouillais dans ce garage poussiéreux, plus je voyais des facettes différentes de mon papa, j'avais des réponses à des questions que je ne me posais pas forcément. Et je n'ai pas eu toutes les réponses que je me posais. Et en fait, je me rends compte que c'est pas grave. Et ce travail, c'était plus... Enfin, c'est devenu une excuse un petit peu de faire mon deuil. J'ai personnellement, ça je parle vraiment d'un point de vue personnel parce que chacun gère ça à leur manière. Mais moi, je réussis encore à faire mon deuil en parlant de ça, en parlant de mon père, en n'ayant pas de tabou un petit peu pour m'empêcher de pleurer ou je sais pas quoi. En fait, j'avais besoin de ça, et pouvoir faire ça et discuter de ce projet avec autant de candeur et de bienveillance avec le Mehdi El-Kindi, le producteur et le fondateur des Bonnes Ondes, c'était un peu inespéré, honnêtement. J'ai eu beaucoup de chance, parce que c'est compliqué de pouvoir autant faire confiance à quelqu'un alors que tu racontes un récit aussi intime. Pardon, je suis désolée si je parle trop, mais tu m'avais aussi posé une question sur l'écriture, et ça, c'était une phase très très compliquée pour moi. C'était la phase la plus compliquée parce que je dois écrire des... j'ai écrit une correspondance à mon père où je m'adresse vraiment à mon père, et je lui racontais en fait toutes mes journées. Je lui racontais comment ça se passait, je lui racontais la recherche, et ça a duré pendant longtemps. Et il y avait un long texte qui a été bien nettoyé par la suite pour l'inclure dans la voix. Un des défis très compliqués qu'il y a eu pour ce podcast, c'était enregistrer ma voix. J'ai eu de la difficulté. J'ai vraiment eu de la difficulté, je n'y arrivais pas. Mais j'y suis arrivée le jour où je suis rentrée dans la cabine d'enregistrement, et j'ai imaginé mon papa en face de moi et je lui parlais. Ce qui fait que j'étais extrêmement émotive j'essayais de m'empêcher un petit peu d'être aussi émotive, mais j'avais pas le choix parce que c'est vraiment... Enfin, j'ai mis toutes mes tripes dans ce projet, et il fallait que je sois authentique, et c'est en regardant mon papa dans les yeux alors qu'il n'était pas là que ma vraie intention est sortie sur le micro.
En tout cas, ça se ressent. C'est quelque chose, il y a quelque chose de très vrai, de très authentique, de très spontané. Et c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et bravo. Et ce que je voudrais savoir, dans le monde du podcast aujourd'hui, au Maroc, quel est le genre de public, à ton avis, qui veut ce genre de contenu en format podcast? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on est tellement habitué à l'image maintenant, et l'image incessante qui nous martèle au quotidien. Revenir à ce format-là, un peu comme la radio, c'est assez déstabilisant. Moi, je fais de la radio et de la télé, c'est vrai que j'arrive à switcher entre les deux. Comment tu vois ça, toi, avec... tu es dedans, mais en même temps, tu fais partie de ces générations, je suppose. Donc, comment tu arrives à voir ça?
Pour moi, le plus important, c'est de faire
C'est l'apprentissage, c'est l'éveil au plus grand nombre.
Merci beaucoup, Yasmine, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci.
Merci beaucoup. Avec
merci
grand plaisir.
Infiniment. Merci. Merci, c'était vraiment un plaisir.
Merci. D'ailleurs, juste pour le plaisir, on va écouter un petit extrait.
Ah, oui.
Question de voir un peu et d'entendre surtout ce que ça donne. Donc, on écoute ensemble. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, on parle un peu littérature avec le psychanalyste de Brazzaville, troisième roman de Dibakana Mankessine. Nous sommes à Brazzaville en 60. Le docteur Kaya reçoit dans son cabinet de psychanalyste tout ce que le pays compte comme élite intellectuelle, politique, militaire ou religieuse. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce qui se passait dans leur tête. Et j'ai pensé que la psychanalyse, ou en tout cas le divan de la psychanalyse, était le meilleur endroit permettant la libération de la parole. Dans ce livre, donc, le psychanalyste de Brazzaville, il est avant tout question d'indépendance et de son choc psychologique pour comprendre l'Afrique actuelle. En tout cas, c'est ce qui a séduit à l'époque le jury du prix Orange du livre en Afrique et sa présidente romancière ivoirienne, Véronique Tadjo, qui dira « C'est un livre très ambitieux, une fresque de personnages cocasses et intéressants, fictifs ou réels. Et c'est un travail assez formidable qui nous a beaucoup plu. Il est moins question de folie et de médecine dans cette fresque chorale. » Paroles libérées, apprendre à se confesser en somme pour mieux se comprendre et mieux avancer. Un livre étonnant, passionnant, très bien ficelé, le psychanalyste de Brazzaville, troisième roman de Dibakana Mankessine, à lire d'urgence. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à écouter toujours en avant-première sur Média Podcast. Et on continue donc en musique avec DJ Van, Sidi Habibi. Question de clôturer en beauté. Merci d'avoir été avec nous et très bientôt.
كراش الوقت يدوز غير سلو موشن يا ما بيبي يدي في ديكم بدو حنا من الاول ما كاينش الفيسبوك سوشيال ميديا غير انا وياك بلا تليفون ما عندنا ما نديرو فيك لايف كل دقيقه تدوز نعيشوها لايف وكنقولي كنقولي انتي كنقولي انتي يا ما كاينش حالك وكنقولي كنقولي انتي You're my sunshine girl لا 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 الحبيبي ديالي ايلي ايلي سيدي حبيبي فين هو انا مريض انا مريض حتى مرض ما بيا ايلي ايلي سيدي حبيبي فين هو يا بنت الناس الزين كاين صواب كاين عندك برد العالم وما كاينش بحالك عربية كلشي باغي اللون ديالك ليزا بوينا الفيزا مشي وانا وياك تالي بيزا ركبي يلا نبدلو العيشة وكنقولي كنقولي كنتي كنقولي كنتي يا ما كاينش حالك وكنقولي كنقولي كنتي You're my sunshine girl لا 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 ويلالي الحبيب